Et si on ouvrait la parole de Dieu, est-ce que vous avez vos Bibles? Est-ce que c'est possible de me montrer vos B-I-B-L-E? Oui, oui. Très bien. Et si on l'ouvrait dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon saint Matthieu, pour nous arrêter sur l'une des 7 paraboles qui nous parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux, c'est la même chose. Et je vous invite à faire une première lecture, Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30, et c'est le Seigneur Jésus qui parle à la foule, qui parle également à ses disciples, et qui éclaircit les consciences et les cœurs sur le royaume des cieux. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Mais d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit: « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent: « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Et juste après avoir cité cette parabole, certainement dans la même journée, Jésus, un peu plus tard, donc, révéla à ses disciples d'une manière claire la signification de cette parabole, la parabole de l'ivraie. Et là aussi, on peut faire une deuxième lecture, un peu plus bas, dans le chapitre 13, au verset 36. Et nous voyons et nous lisons ensemble: alors que Jésus renvoya la foule et entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Mais explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit: « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. » Amen. La parabole que Jésus révèle fait mention donc des justes et des méchants qui, quelque part, sont amenés à se côtoyer par la force des choses, il faut le rajouter. Mais ce que cette parabole nous rappelle, c'est qu'au moment du jugement dernier, Jésus, le Fils de l'homme, mais aussi le Fils de Dieu, enverra ses anges. Et lui-même sera séparé, les justes des méchants. Les méchants, dans cette parabole, sont ni plus ni moins ceux qui ont été désignés comme étant les fils du malin. Et ceux-ci seront alors jetés dans la fournaise ardente, ce qu'on appelle communément enfer. Et puis, par contre, et c'est ça nous intéresse ce matin, les justes, c'est-à-dire les fils du royaume, se réjouiront dans le royaume de Dieu, ce qu'on appelle également communément le paradis. Et cette parabole est vraiment une révélation prophétique de ce qui va se passer dans l'avenir. Et l'importance pour nous est de pouvoir prendre en compte ce que le Seigneur Jésus nous dit. Et il nous l'a dit au travers de cette parabole de l'ivraie, mais il le dit à plusieurs reprises, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et j'ai pour vous encore quelques versets qui le confirment. Par exemple, quand on regarde dans Daniel chapitre 12, les versets 2 et 3, Cet homme, Daniel, qui a reçu des révélations d'une manière particulière, va dire également en son temps cette parole, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte. Et il est qualifié, cette honte, d'éternelle. Par contre, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Et ça nous intéresse. On veut briller tous les feux de Dieu et être honoré dans le royaume des cieux. Jésus lui-même, dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, a bien fait aussi mention de cette séparation qui aura lieu. C'est incontournable. Et chaque jour qui passe nous rapproche à bien de cet événement. Jean chapitre 5, versets 28 et 29, ne le cherchez pas. Jésus qui dit, ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. La voix de qui ? La voix de Jésus, le Fils de l'homme, mais aussi le Fils de Dieu. Et ils en sortiront. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ainsi, j'ai envie de dire que la parabole de l'ivraie, elle est des plus particulières. Et c'est étonnant, les disciples ont demandé explication uniquement de cette parabole par rapport à toutes les autres paraboles qui parlaient également du royaume des cieux. Cette parabole était peut-être certainement intrigante pour eux. Et ils en voulaient l'explication que Jésus a donnée d'une manière très claire. Et il va terminer cette parabole en rappelant ce qu'on a lu ensemble, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voudrions avoir les oreilles, et surtout les oreilles de notre cœur, pour entendre ce que Dieu veut nous dire pleinement ce matin. Aussi, j'aimerais, de cette parabole, mettre en évidence peut-être deux choses que l'on pourrait mettre littéralement en opposition. Quand je lis cette parabole, je vois comme deux stratégies. D'un côté, la stratégie du diable, du malin, comme il est mentionné ici, une stratégie machiavélique du malin, qu'on peut mettre en opposition avec la stratégie de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste, eh bien, commençons par parler de la stratégie machiavélique du malin. La remarque que je pourrais faire déjà, c'est que souvent le diable, ce qu'il cherche à faire, c'est souvent singer Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Tout ce que Dieu fait, il le réplique, mais bien sûr en rajoutant eh bien, sa touche diabolique. Et c'est avec un fait vraiment que nous voyons bien au travers de cette parabole. Jésus qui est personnifié par le semeur, celui qui vient dans son champ et qui sème la bonne semence, eh bien, tout de suite après, alors que la nuit vient à tomber, le malin, lui, vient par la suite semer une mauvaise semence, c'est-à-dire l'ivraie. Et nous l'avons lu, le malin ne la sème pas n'importe où ou au hasard. Non, il va dans le champ de Dieu, le champ du Seigneur Jésus, pour semer sa mauvaise semence. L'objectif du malin est de toujours détruire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Seigneur. Et quand on a compris ces choses, on sait qui est réellement notre ennemi. Vous savez, ce malin est venu, il a semé ce qu'on appelle l'ivraie. Et certainement, l'ivraie dont il est fait mention ici, c'est un type d'ivraie qu'on appelle l'ivraie barbu. Et l'ivraie barbu, qui est appelée aussi l'olium en termes scientifiques, et c'est une plante nuisible. Une plante nuisible de la famille des graminées. Et cette plante, elle est nuisible dans le sens que si, par exemple, vous la mélangez dans la farine eh bien, qui va servir à constituer le pain, il peut vous donner des indispositions au niveau de l'estomac. Elle est nuisible pour la santé. Et en plus de ça, cette ivraie barbue a des vertus d'ivresse. Mais si, avec ça. Il faut savoir aussi que le mot ivraie vient du grec dithanion. Est-ce que vous le saviez ? Personnellement, je ne le savais pas. Et dithanion, ça signifie quoi ? Ça signifie mauvaise herbe. Alors ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et ce mot dithanion a donné en français le mot suivant, zizanie. D'où vous comprenez l'expression semer la zizanie. Et s'il y a un qui sème la zizanie dans le monde en général, dans les familles, parmi les personnes, c'est bel et bien l'ennemi de nos âmes. Le malin, le diable, le destructeur, Celui qui vient semer eh bien, la mauvaise semence, là où Dieu veut apporter la paix, là où Dieu veut apporter la joie. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quelquefois on lit les paraboles tellement d'une manière rapide, mais il nous est dit eh bien, que le malin, parce qu'il est malin le diable, c'est le cas de le dire, il a semé l'ivraie pendant que les serviteurs dormaient. Comprenez bien que s'il ne dormait pas, il n'aurait pas fait son petit jeu. Or, à quel moment, par excellence, nous dormons, si ce n'est la nuit, si ce n'est quand eh bien, le soleil se couche et la nuit se lève. Autrement dit, pour parler de stratégie du malin, eh bien, le malin, lui, va répandre sa semence destructrice là où se trouveraient les ténèbres, là où se trouve l'obscurité, là où, finalement, il n'y a plus de lumière. Et quelque part, ça devrait nous parler. Il y a un enseignement à tirer pour chacune de nos vies. Si dans notre cœur, il y a encore des recoins ténébreux et des zones d'ombre manifestes, sachons alors que nous devenons potentiellement un terrain favorable pour la semence empoisonnée du malin. Amen ou pas amen? Or, les uns comme les autres, nous sommes appelés à pouvoir ressembler à notre Père céleste. Jésus a pu dire à ses disciples, soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Or, et on l'a partagé avec ceux qui étaient là eh bien pour la formation biblique, on a rappelé les qualificatifs de Dieu. Dieu, il est immuable, il est amour, mais Dieu est également lumière. Un texte qu'on a partagé ensemble, c'est 1 Jean chapitre 1, du verset 5 au verset 7. Je voudrais que nous puissions le lire ensemble tout à nouveau. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Je voudrais que vous puissiez le lire avec moi. 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7. Voilà, j'entends les bruits de feuilles et en même temps je suis ventilé. Non, je m'applique à vous encourager à lire la Bible. Insidieusement, on prend plus le temps de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu et peut-être même lire entre les lignes pour reprendre l'expression et pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. 1 Jean chapitre 1, les versets 5 à 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Alors si nous disons, dit le verset 6, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Autrement dit, nous nous mentons à nous-mêmes, nous trompons les autres, mais nous ne trompons pas Dieu. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, et ça nous intéresse, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, alors nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et tous les bénéfices, on demandait aux étudiants de pouvoir relever de ce texte, ce verset 7, les bénéfices, les avantages que nous avons à pouvoir bien se maintenir dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion avec Dieu. Et deuxièmement, nous sommes constamment au bénéfice du sang précieux de Jésus. Constamment, jour après jour, nous avons besoin du sang précieux de Jésus. C'est pour ça que nous le rappelons au travers de nos cultes, au travers de ses emblèmes, le pain et le vin. Mais le sang de Jésus est nécessaire pour que nous soyons constamment agréables à Dieu. C'est en vertu du sang de Jésus que je peux m'approcher, que Dieu peut me reconnaître comme son Fils. Et c'est ce sang précieux qui sera une marque et qui nous permettra d'être accueillis favorablement dans le royaume des cieux. Pour reprendre un exemple tellement flagrant, c'est celui de Judas. Judas qui pourtant côtoyait le Seigneur Jésus, il touchait Jésus, vous vous rendez compte? L'un des apôtres touchait Jésus du doigt, l'entendait certainement. A-t-il entendu cette fameuse parabole de l'ivraie? Malheureusement, eh bien, cet homme, ce chrétien, ce croyant de l'époque de Jésus, abritait des coins ténébreux dans sa vie. Il avait de la cupidité, vous le savez tous. Mais c'était aussi un voleur. Et c'est dit texto dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6. Personne ne le voyait. Personne ne s'en doutait. Et si Jean a pu l'écrire, c'est que peut-être il s'en est rappelé où il y avait eu un problème. Et il nous est dit dans Jean chapitre 12, versets 4 à 6, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Pour vous remettre un petit peu le contexte de cette question, une femme était venue et avait rompu un vase contenant un parfum de grand prix et avait répandu ce parfum sur les pieds du Seigneur Jésus. Et bien sûr, Judas était là, mais avec cette ivraie dans son cœur, avec ce coin ténébreux, cette cupidité dans son cœur, il a posé cette question qui, en apparence, paraissait, oui, peut-être pertinente. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ? Mais voilà, verset 6. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était lui-même voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous savez, la Bible ne nous explique pas tout. Mais si Jean a pu mettre en évidence ce cas, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, eh bien, un problème avec cette personne, avec ce croyant. Je dis ce croyant parce que lui aussi a fait des miracles, lui aussi a vu eh bien, la gloire de Dieu. Il touchait Jésus, je l'ai dit. Mais malheureusement, dans son cœur, a bien foisonné de l'ivraie que le diable avait pu semer. Et nous comprenons maintenant pourquoi le diable a pu semer l'ivraie dans son cœur, finalement, en acceptant les coins ombragés de son cœur, en acceptant l'ivraie, la semence, la mauvaise semence du malin, lui-même, Judas, peut-être sans s'en rendre compte, il est devenu lui-même ivraie. Le même ivraie que Jésus dénonce dans la parabole de l'ivraie, ivraie qui sera jetée dans la fournaise ardente. Ivraie qui va surprendre certaines personnes, ne le cherchez pas. Mais à un moment donné, Jésus va dire, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait ta volonté, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et alors plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est tellement solennel ce matin ce que je voudrais vous dire. Et je veux m'appliquer à dire ce que le Seigneur me demande de dire. Et je l'ai déjà dit, je ne suis pas là pour effectivement peut-être flatter, nous flatter, parce que ça me concerne également, mais nous interpeller. Car le Saint-Esprit a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, versets 41 et 42, et je rappelle ce que Jésus a dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume. Ce n'est pas il va arracher du monde, mais de son royaume. Arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et alors ils les jeteront dans la fournaise ardente, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est pourquoi je voudrais nous encourager, alors que nous sommes là et nous sommes rassemblés pour être meilleurs, permettons au Dieu de la lumière de chasser toute forme de ténèbres au dedans de nous. Amen ou pas amen, frères et sœurs ? J'aime beaucoup ce passage dans le livre de Sophonie où Dieu va dire à son peuple, « Je fouillerai Jérusalem avec des lampes. » Et plaise à Dieu que les lampes de Dieu puissent venir éclairer tout ce qui peut être encore ombragé. Là où l'ennemi, par excellence, parce que c'est sa stratégie, va semer sa bonne semence. Il ne sèmera jamais sa semence dans la lumière de Dieu. Mais si notre cœur est rempli de la lumière de Dieu, il ne pourra pas semer. Il va trouver, chercher au-dedans de nous, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, tous les recoins ombragés. Et c'est là qu'il va choisir de semer cette ivraie spirituelle. Réglons le péché. Réglons le péché. Qui a pu s'installer, vous savez, frères et sœurs, ne nous flattons pas, on est tous des êtres humains, avec nos imperfections. On peut avoir une carte de membre à jour, on peut être là depuis des années et marcher avec le Seigneur fidèlement, merci Seigneur, mais encore reconnaître de manière potentielle que des coins ombragés, des coins d'ombre, des zones ténébreuses sont encore dans nos vies et nous empêchent de marcher dans la lumière de Dieu. Regardez encore avec moi juste deux passages, Romains chapitre 13, versets 12 à 14. Il y a deux dimanches de cela, on a partagé sur Romains chapitre 13, je reviens dessus. Romains chapitre 13, versets 12 à 14, il nous est dit « La nuit est avancée », dit l'apôtre Paul. Et il le dit parce qu'il est saisi du Saint-Esprit. Et il sent que le temps approche. Nous sommes beaucoup plus proches du retour du Seigneur que du temps de l'apôtre Paul. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie et de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais au contraire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et de grâce, n'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Un autre passage, vous voulez ? Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 13. Si ton cœur est travaillé ce matin, sois heureux. Si tu es mal à l'aise, sois heureux. Parce qu'en son temps, quand Jésus a prononcé cette parabole, forcément ses disciples étaient là, Judas était là. Mais il a endurci son cœur et a empêché Dieu de pouvoir bien intervenir dans sa vie. Laisse-toi travailler par le Seigneur. Reçois la parole de Dieu avec douceur. C'est tellement important. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit consiste en quoi ? En toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Il dit au verset 10, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Veillons, frères et sœurs, à ce qu'il n'y ait pas d'ivraie au plus profond de notre cœur. On peut faire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, peut encore nous montrer, je dis nous, parce que je me sens aussi concerné, peut encore nous montrer, parce qu'il veut qu'on soit prêt au fin, eh bien, fin prêt pour son rendez-vous, peut encore nous montrer des choses à rectifier. Est-ce qu'on est d'accord avec cela ? Moi, je peux faire un Dieu, eh bien, plein de vérité. Et d'ailleurs, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, on va laisser là la stratégie du malin pour peut-être observer au travers de cette parabole ce qu'a été la stratégie que le Seigneur Jésus va employer face à celle de l'ennemi, face à celle du malin qui a semé l'ivraie dans son champ. Et on peut qualifier de la stratégie du Seigneur une stratégie qui dépasse notre entendement. C'est l'infinie sagesse, mais également l'infinie souveraineté qui va révéler ce qu'est la stratégie du Seigneur. Déjà, les serviteurs du maître de maison se sont levés un bon matin et ils découvrent dans le champ, le champ de blé du maître qu'il y a également des mauvaises herbes, l'ivraie, impropre, on l'a vu, à la consommation. Et ce problème, les serviteurs ne pouvaient pas le voir avant. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir aussi que l'ivraie, et c'est là où on voit encore la stratégie du malin, l'ivraie, quand il est une jeune pousse, vous êtes incapable de la différencier par rapport à la jeune pousse de blé, par exemple, ou d'orge. Impossible. Sauf si vous avez l'œil avisé, voilà. Mais c'est impossible. Et on peut comprendre que les serviteurs, voyant toute cette semence pousser, étaient réjouis, pensaient que tout était du blé. Mais quelle ne fut pas leur surprise quand arrivait vraiment le temps des moissons et puis que chacun de ces plantes produisait leurs fruits, de constater qu'il y avait au beau milieu de la bonne semence du Seigneur de l'ivraie. Et ce problème, les serviteurs avaient du mal à pouvoir l'accepter. Ils étaient en panique, ils étaient décontenancés. Mais quand parallèlement à cela, je relis ce passage, je n'ai pas l'impression que le maître de maison soit dans l'affolement, soit dans l'inquiétude. Alors qu'ils sont là avec plein de questions, mais Seigneur, pourquoi nous, on est les rois, les êtres humains, on est les rois des questions. Seigneur, pourquoi cela ? Pourquoi ceci ? Et pourquoi ? Et le Seigneur, avec une telle douceur, une telle sérénité, va leur apporter les explications dont ils ont besoin d'entendre. Et là, je voudrais faire un parallèle avec notre Dieu. Vous savez, le Dieu que nous servons, il n'est jamais en panique. Si nous, les hommes, on peut être déconcertés, décontenancés, « Oh Seigneur, c'est un scandale, et qu'est-ce qui se passe, et ceci et cela ?» Le Seigneur, il n'est jamais surpris d'aucune situation. Est-ce que vous le croyez ? Le Seigneur, il est le maître de l'univers. On a besoin de reposer même l'univers dans son contexte. L'univers est tenu par Dieu. Dieu, il est sur son trône et il règne. Il sait même ce que vous pensez actuellement. Il connaît les tenants et les aboutissants de notre vie. Il connaît même la fin du cours de l'histoire de toute l'humanité. Il sait finalement ce qui va se passer à la fin. Il est le maître des éléments. C'est pour ça qu'il aura toujours, en toutes circonstances, le dernier mot. Et dans ta situation, mon frère, ma sœur, ne te laisse pas paniquer, ne te laisse pas emporter par l'inquiétude ou la peur. Ton Dieu, qui connaît toutes choses, qui est sur son trône, c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui règne. Et c'est lui, comme on l'a entendu eh bien ce matin, qui te demande de ne pas craindre, mais de lui faire totalement confiance, parce que c'est un Dieu d'amour. Vous savez, lorsqu'on nous touche, on touche la prunelle des yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que les serviteurs ont voulu intervenir. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ces serviteurs, ils avaient la pensée de pouvoir arracher l'ivraie. Ce que d'ailleurs n'importe quel agriculteur aurait fait. Et voyez-vous, les voies des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Et quand on a compris ces choses, il faut qu'on puisse tranquillement lever la tête et regarder au Seigneur. Dieu, lui, si nous on est pris dans la panique, quelquefois on veut très rapidement régler des problèmes. Et si on prend le temps de demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu en veux ? Peut-être que la réponse va nous surprendre. Dieu est Dieu, et il fait ce qu'il veut. Quelquefois, on est là, on veut être plus royaliste que le roi. On veut employer la manière forte, solutionner dans la précipitation, je précise, dans la précipitation, les problèmes en faisant ce que nous pensons être juste. Mais Dieu, lui, il sait attendre. Et il attend quoi ? Il attend le bon moment. Et vous savez quoi ? Je vous le donne dans le mille. Celui qui connaît le bon moment pour agir, c'est le Seigneur. Parce qu'il fait toutes choses belles en son temps. Non pas qu'il est laxiste par rapport au péché, alors là, ça, détrompez-vous. S'il incarne en horreur le péché, on l'a vu aussi avec les étudiants, c'est bel et bien le Seigneur. Le Seigneur, tellement il était insupporté du péché, qu'à un moment donné, alors que Jésus était sur la croix, il a été obligé de se, un tant soit peu, se détourner de son fils Jésus. Et c'est pour ça que cela a arraché un cri de la personne du Seigneur Jésus. Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Et s'il a pris le temps, une première fois, de détruire le monde avec le déluge, il a déjà averti qu'il détruira le monde une deuxième fois, mais cette fois-ci par le feu. Et entre nous, c'est... Il n'aura même pas besoin de le faire. Nous-mêmes, on se prépare à cela. Regardez tout le monde, tous les pays s'arment de la guerre, de la bombe atomique, etc. Livrés de l'ennemi, la zizanie, le conflit. Et on arrive à ces choses-là. C'est une réalité. Dieu, lui, sait attendre. Il sait attendre parce que c'est un Dieu plein d'amour. C'est un Dieu qui, dans sa préscience, ne s'empresse pas de pouvoir agir avec précipitation, mais il le fait au bon moment et d'une manière parfaite. Je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Jésus n'était pas au courant, pour revenir à l'exemple tout à l'heure, n'était pas au courant que Judas était un voleur ? Pendant 3 ans et demi, ce croyant, il était là. Vous voulez parler de la patience de Dieu ? Quand je lis 1 Corinthiens 13, l'amour est... patient. Il y a plusieurs qualificatifs, mais le premier terme, l'amour est patient. La patience de Dieu. Avant de détruire la terre par l'eau, il avait donné le temps, l'occasion aux hommes du temps de Noé de se repentir, le temps de construire l'arche. Les commentateurs sont prêts à dire qu'il a passé plus de 100 ans à pouvoir construire cette arche. La patience de Dieu. Jésus était patient. Toutes les fois, il croisait le regard de Judas. Il était patient. Et je le dis de tout mon cœur, j'en suis convaincu. Quand le jour où on a livré Jésus, et Judas est venu avec la cohorte, quand Jésus lui a dit, mon ami, c'est de cette manière que tu livres le Fils de l'homme, ce n'était pas une parole ironique qui est sortie de la bouche du Seigneur. C'est son amour qui lui parlait. Encore à nouveau, je te tends la main. Encore à nouveau, je te donne une occasion de pouvoir te repentir. C'était le moment favorable, au cœur même des ténèbres, au cœur même de cet ivraie qui le rongeait de l'intérieur. Il avait encore la possibilité de trouver grâce auprès du Seigneur. Dieu connaît parfaitement l'ivraie qui peut se trouver parmi ses enfants. Ne nous flattons pas. l'Église de Christ, moi j'aime à le dire, l'Église de Christ appartient à Jésus. Et je dis souvent, j'aime le dire, l'Église, cette Église ne m'appartient pas. Vous savez, nous les pasteurs, on est là un temps, on arrive ici et après Dieu nous envoie autre part. Mais cette Église appartient à Jésus. Ne nous leurrons pas, frères et sœurs, s'il y a un qui connaît les moindres détails de ce qui se passe ici, c'est le Seigneur. Et dans son Église d'une manière générale. Et croyez-moi, il a l'œil. Les gens pensent que le Seigneur est laxiste. Ils confondent le laxisme des hommes avec la patience de Dieu. J'ai envie de dire, et employer un terme un peu archaïque, la longanimité de Dieu, qui est lent à se mettre en colère et patient jusqu'à ce que l'homme se repent. Le Seigneur est aussi conscient de l'ivraie qui pourrait se trouver dans nos cœurs, même avec une carte de membre à jour. Il est conscient. Pourtant, est-ce qu'il nous a manqué de fidélité? La Bible dit, c'est clair dans le livre de Timothée, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Mais Dieu, par amour pour nous, use de patience et de miséricorde. L'amour de Dieu est patient. Et cet amour nous invite à bien, s'il le faut, à pouvoir nous repentir, à pouvoir rectifier le tir, à pouvoir bien ôter, arracher, parce que nous avons cette possibilité. Vous savez, la Bible dit dans Ecclésiastes chapitre 3, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour planter, et il y a aussi un temps pour arracher. Si quelqu'un se pose la question, mais à quoi ça correspond? Arracher les mauvaises herbes dans nos vies. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Le Seigneur, c'est un Dieu de bon sens. Hein, c'est un Dieu de bon sens. Mais je loue vraiment l'action des serviteurs qui ont demandé. Ils avaient la pensée de pouvoir arracher l'ivraie, mais ils ont eu une bonne attitude, celle de demander donc au maître de la maison, eh bien, veux-tu qu'on arrache l'ivraie? Ils étaient presque à se lever, parce qu'ils pensaient que Jésus allait dire oui. Et nous lisons ensemble ce que Jésus a dit, on a bientôt terminé, Matthieu chapitre 13, les versets 29 et 30. Matthieu chapitre 13, versets 29 et 30. Non! Non! Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, pas vous, au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. Oui, il y a même un ordre. Moi, j'aime Dieu. C'est un Dieu d'ordre. Même pour partager le pain et le vin, il a demandé aux gens qui s'assoient en rangée de 50, 100, etc. Il faut de la discipline. Laissez croître ensemble l'un et l'autre et jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous savez, quand on prend le temps d'écouter le Seigneur, tout s'éclaircit. Et croyez-moi, ces serviteurs, ils ont arrêté toute intention qu'ils avaient dans leur cœur. Déjà, le Seigneur, eh bien, le maître, leur explique un détail qu'ils n'avaient certainement pas réalisé. En arrachant effectivement l'ivraie, ils risquaient de porter tort au blé qui était à côté. Le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu d'amour. Mais c'est aussi le Dieu qui est omniscient, il sait toutes choses. Et il sait ce que nous ne voyons pas. Vous savez, souvent dans certaines situations, on n'a pas les tenants et les aboutissants. Et quand quelque chose nous dépasse, il faut qu'on soit assez humble pour dire « Mais Seigneur, alors prends le relais. » Ou à la rigueur, dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Quand on voit cet homme qui pensait faire bien, ce Saul de Tarse, et qui était littéralement tombé de monture et reconnaître en Jésus celui qu'il finalement persécutait par ignorance, la question qu'il va dire, que veux-tu que je fasse? Première question, qui es-tu Seigneur? Et Jésus va lui révéler sa personnalité et son identité. Et la deuxième question qu'il va lui poser, Saul de Tarse va dire, au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et qu'on soit assez humble et pas nous précipiter à couper les têtes. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus leur explique qu'ils ne peuvent pas faire ainsi. Mais il va aussi indiquer aux serviteurs qu'il a choisi lui-même l'époque de la moisson pour régler ce problème. Et il ne pouvait pas avoir meilleur moment pour séparer l'ivraie du blé. Pourquoi je le dis? Parce que l'ivraie et le blé, je l'ai dit, tant qu'ils sont une jeune pousse, on ne peut pas les différencier. Et on risquerait, en arrachant un livret, eh bien, ou peut-être même au passage d'arracher. Mais au moment où on peut les arracher, c'est lorsqu'ils arrivent à maturité et le fruit est révélateur de ce qu'ils sont, réellement. Et pour ceux qui connaissent l'ivraie, et particulièrement l'ivraie barbu, il rend un fruit, parce qu'il rend quand même un fruit. Je pensais que l'ivraie ne rendait pas un fruit, il rend aussi un fruit. Mais ce fruit, il est beaucoup plus noirâtre, il est plus sombre que le fruit que rend le plant de blé. Jésus va le dire autre part, ne voyez-vous pas les champs déjà blanchir ? Donc le blé, quand il arrive à maturité, quand il arrive avec son grain, de loin il est blanc. Tandis que l'ivraie, il est un peu plus sombre, noirâtre. C'est un peu plus facile, lorsqu'il nous faut arracher, à bien faire le distinguo. Et ça rejoint ce que le Seigneur Jésus dit, parce que vous avez compris que je vais en faire une application. Jésus, il a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Dis-moi quel fruit tu produis et je te dirai qui tu es. C'est avec les fruits que le Seigneur saura nous reconnaître. C'est avec les fruits que nous produisons. C'est notre vie, ce qu'elle dégage, ce qu'elle émane, eh bien, qui va montrer si oui ou non nous sommes fils du malin ou si nous sommes eh bien, fils du royaume de Dieu. Dieu a fixé aussi un jour où il jugera le monde. Et c'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 17, les versets 30 et 31, et parce qu'il a fixé un jour, il invite Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le résistant des morts. Et quel est cet homme ? Jésus le Fils de l'homme, mais Jésus également le Fils de Dieu. La Bible le dit dans le livre de Malachie. Dieu fera le distinguo entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et Jésus sera sans aucun problème faire la différence. Même nos fruits eh bien, seront révélateurs de qui nous sommes. Le juste produit un fruit de sainteté, tandis que le méchant produit un fruit inique. Alors je voudrais terminer en nous posant juste une question. Mon frère, ma sœur, ce matin, fort de tes nombreuses années, je sais que tu aimes le Seigneur, tu ne serais pas là ce matin. Mais dis-moi, quel fruit produis-tu dans ta vie ? Ce même fruit te fera reconnaître au jour du jugement. Et il est important que tu fasses le point avec ton Seigneur et te poser la question, quel fruit rends-tu ? Et si quelque part, alors qu'on baisse la tête, on ferme les yeux, si mon frère, ma sœur, et peut-être toi, mon ami, qui viendrait pour là ou les premières fois, si tu reconnais la présence de l'ivraie dans ta vie, alors aujourd'hui même, le Dieu d'amour, il se propose de t'aider à venir arracher tout ce qui pourrait être pour toi au temps de Dieu une pierre d'achoppement. Et le Seigneur n'est pas là pour nous accuser, le Seigneur n'est pas là pour nous juger. Parce que la porte de la grâce est encore ouverte. Ses mains sont tendues vers nous et nous invite à bien peut-être à rectifier le tir. Nous invite à entendre sa voix ce matin qui nous dit que celui qui a des oreilles entende et que celui qui a des yeux aussi puisse voir. Contemple l'amour de ton Dieu. Celui qui un jour t'a croisé dans ta route, dans ta marche, dans ta vie, et qui a fait de toi un de ses enfants. Ce même Dieu, aujourd'hui, est attristé parce qu'il trouve chez toi de l'ivraie manifeste, une semence qu'il n'a jamais semée, mais que le malin a semée. Mais ce matin, parce qu'il t'aime, il veut t'aider à rectifier le tir. Et par la foi, tu peux arracher cette ivraie spirituelle. Ce matin, par un geste d'obéissance, tu peux arracher spirituellement tout ce que tu peux reconnaître comme un obstacle qui t'empêche de marcher dans la lumière. Et je voudrais t'encourager ce matin à pouvoir, devant ton Dieu, faire ce pas et dire, Seigneur, aide-moi à arracher ce que tu connais, ce que tu sais dans ma vie et ce que je sais. Plus on va avancer dans le temps, plus Dieu nous demandera d'être transparents et vrais. Parce que le jour de la séparation arrive. Même déjà, certains sont déjà dans la tiédeur. Mais le Seigneur a déjà averti que des temps d'apostasie viendront dans l'Église. Et seuls les vainqueurs pourront persévérer jusqu'au bout. Et je veux croire que nous sommes tous des vainqueurs. Autrement, nous ne serions pas là. Un vainqueur, ce n'est pas celui qui est parfait. Parce que si vous pensez que vous êtes parfait, arrêtez de vous tromper. Le vainqueur, c'est celui qui met en pratique la volonté de Dieu. C'est celui qui, lorsque Dieu lui montre aussi ses torts, il est prêt à pouvoir rectifier le tir. Voilà le vainqueur. Voilà le courage que Dieu attend. Quand un homme, une femme, dit « Mais Seigneur, c'est moi. Cet homme, c'est moi. » Comme le roi David, quand Nathan est venu devant lui, il a dit « C'est moi, j'ai péché contre lui. » Il n'a pas trouvé d'excuse. Mais il a voulu expressément que l'ivraie soit enfin sortie, extirpée de son corps. Si c'est ton cas, dire au Seigneur, « Seigneur, je veux mettre ma vie en règle. Je ne veux pas être un pseudo-chrétien. » Vous savez, on peut chanter, hein ?« Oh, la paix que Jésus donne, un chrétien, je croyais être. » Voilà encore un homme qui se trompait. Il pensait que, jusqu'à ce que la lumière de Dieu vienne l'éclairer, et il a compris ce qu'est la paix de Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui se sont manifestées d'une manière ou d'une autre. J'aime cette parole. Tu le dis au cœur même du psaume 51. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Parce que tu es un Dieu de vérité et tu es un Dieu de lumière. Je te prie pour tous ceux qui se sont manifestés d'une manière ou d'une autre, en se mettant debout ou même en levant la main, de pouvoir, je te prie, répondre, Seigneur Père, à leurs attentes, répondre à leurs supplications, à leurs prières. Et même, Seigneur mon Dieu, de leur donner au-delà, parce que tu es un Dieu d'abondance. Aide-les, Seigneur, à arracher, Seigneur Père mon Dieu, tout ce qui peut faire tort et attrister le Saint-Esprit. Car ce sont des vainqueurs. Ils l'ont montré encore ce matin. En reconnaissant la voix de leur bon berger et en agissant en conséquence. Seigneur, nous te le demandons. Rends-nous meilleurs jour après jour. Transforme nos vies. Seigneur, tu l'as dit au travers de cette parabole, tous ceux et celles, Seigneur, qui sont reconnus comme les fils du royaume, ils resplendiront, alléluia, comme le soleil. Et nous voudrions vivre, Seigneur mon Dieu, cette glorieuse espérance des enfants de Dieu. Purifie-nous, sanctifie-nous, Seigneur, épure-nous, Seigneur, que cette Église soit vivante, Seigneur, dans le vrai sens du terme, et que nous puissions, Seigneur, nous appliquer jour après jour à mieux, de mieux en mieux, de plus en plus à te louer, à t'adorer. Parce que, Seigneur Père, mon Dieu, nous allons et nous sommes en marche vers ce, Seigneur, ce rendez-vous, Seigneur. Je te prie dans ta grâce, épure, sanctifie encore cette Église, donne-nous aller de l'avant, pardonne-nous encore de nos péchés, purifie-nous encore, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à recevoir ta parole avec douceur, dans le nom précieux de Jésus. Amen et amen.